Vous écoutez Radio Campus, la radio de l'Université de Lille, dans le nord de la France.
您在收听的是 Radio Campus, 法国北部最受欢迎的校园电台。
阵阵晚风吹动着松涛，吹响着风铃声如天籁，站在这城市的寂静中，让一切喧嚣走只有青山藏在白云间，蝴蝶自由穿行在清涧，看那晚霞盛开在天边，有一群向西归鸟，谁画出这天地，又画下我和你，让我们的世界绚丽多彩，谁让我们哭泣，又给我们惊喜，让我们就这样相爱相依，总是要说再见，相聚又分离，总是走在漫长的路上。青山藏在白云间，蝴蝶自由穿行在清涧，看那晚霞盛开在天边，有一群向西归鸟，谁画出下我和你，让我们的世界绚丽多彩，谁让我们哭泣，又给我们惊喜，让我们就这样相爱相依，总是要说再见，相聚又分离，总是走在漫长的路上。
Retrouvez nos émissions sur la Chine sur www.ondeschine.fr。您可以登录www.ondesdechine.fr 收听我们有关中国的节目。
Et oui, comme chaque premier samedi du mois, vous avez rendez-vous avec Onde de Chine.Le magazine de l'atelier radio des étudiants chinois de Lille. Au sommaire de cette émission, nous recevons dans quelques instants une artiste plasticienne. Elle s'appelle Kei Xuan Feng. Nous aurons l'occasion aussi de retrouver le professeur Li, qui est directeur de l'hôpital psychiatrique de Canton et qui était venu faire un petit tour dans notre région pour découvrir le système psychiatrique de l'EPSM, l'hôpital psychiatrique de Saint-André, de Roubaix et de Tourcoing. De Chine sur Radio Campus de midi à 13h. Voilà. Eh bien, premier sujet, donc aujourd'hui, nous allons parler d'une artiste plasticienne qui s'appelle Kaisuan Feng. Bonjour Kaisuan.
Bonjour.
Donc, vous êtes artiste formée en région Nord-Pas-de-Calais, on va dire.
Oui, en fait, j'ai fait 5 ans des études en Beaux-Arts à Tourcoing, à l'ERSAP de Tourcoing.
D'accord. Donc, ces études, vous les avez terminées maintenant?
Oui, je viens de terminer le mois de juin. 2010.
Bien qu'on n'ait jamais fini d'étudier dans sa vie quand même.
Non.
On apprend toujours.
Exactement.
Donc, autour de cette table également deux personnes que vous pouvez peut-être nous présenter.
Je vous présente d'abord Olivier Descamps.
Bonjour.
Ce qui est à mon côté. Donc,
Olivier, oui. Bonjour.
Bonjour.
Donc peut-être nous dire la raison de votre présence aujourd'hui ici avec
Moi je suis là pour soutenir Kaisuan dans sa recherche et sa démarche de recherche de titre de séjour en tant que conseiller municipal délégué au développement culturel à Tourcoing. Et donc c'est vrai que c'est à Tourcoing que j'ai eu l'occasion de rencontrer Kaisuan et de voir son travail. Et voilà, de trouver que c'est dommage de laisser partir une artiste qui a tant donné à la région vers des horizons dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendra. Donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir la conserver auprès de nous tant qu'elle le souhaite.
Kaisuan, ton deuxième invité?
Donc c'est en face de moi, donc c'est Marius
Ducadez.
Il travaille à la CIMAD.
D'accord. On peut peut-être repréciser la CIMAD, ça
la
fonctionne.
CIMAD, c'est une organisation qui est extrêmement ancienne et qui s'occupait essentiellement des défavorisés au moment de la guerre. Et qui a élargi son travail avec une apparition dans les centres de rétention pour permettre aux gens qui étaient arrêtés de connaître leurs droits. Et bon, ben, vous savez qu'au niveau de la présence de la CIMAD, ça a dû poser problème au niveau gouvernemental, dans le sens où il y a eu un appel d'offres. La CIMAD a perdu un certain nombre de centres de présence dans des centres de rétention et elle a été remplacée par d'autres organisations qui se rendent compte par elles-mêmes que la situation est extrêmement grave.
Donc, signaler que tout à l'heure dans le magazine qui suit, donc à 13h, nous diffuserons un sujet sur le film Illégal, un film belge, qui parle justement de cet univers des camps de rétention. Un film très intéressant, très important pour moi. Enfin, je vous présenterai tout à l'heure. La CIMAD, on a consacré aussi deux émissions de Radio Campus sur ce sujet de la CIMAD. Donc effectivement, votre rôle est très important aussi pour faire connaître le droit des gens.
Oui, nous sommes essentiellement des bénévoles avec des gens qui ont une spécialité en juriste. Et nous essayons de permettre à des gens qui sont soit sans papier, soit avec papiers parfaitement légaux. On a par exemple le cas de gens qui sont français de naissance et auxquels la France refuse de délivrer une carte d'identité à leurs enfants qui sont restés dans leur pays d'origine. C'est-à-dire que la France ne reconnaît pas le droit de filiation. Et Bon, le travail qu'on fait, c'est un travail d'information. Nous essayons, nous les aidons à remplir leurs papiers et nous leur indiquons les démarches à faire pour obtenir leur titre de séjour.
Alors, il y a des organisations importantes comme le CSP 59, oui. Comité des sans-papiers. Est-ce que vous travaillez avec ?
On travaille, on travaille avec l'ensemble des organisations, le MRAP, CSP. Ils commencent aussi maintenant à avoir petite articulation avec les gens d'Amnesty International. Groupe déraciné. Et nous essayons d'avoir un travail qui va dans le même sens. Nous nous battons pour le respect des droits fondamentaux humains.
Donc aujourd'hui avec Kesuan, on est là pour présenter son travail, son univers d'artiste. Et après, ce serait intéressant de voir justement qu'est-ce qui la motive à rester en France et aussi quels sont les outils dont elle peut disposer, les soutiens dont elle peut disposer et quelle logique pour maintenir son parcours artistique dans notre pays. Voilà, c'est un peu le projet. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Campus 106 FM. Voilà, on retrouve Kesuan donc, qui va nous parler de son projet artistique et de la façon dont elle considère l'art contemporain peut-être. Donc à l'IRCEP, qu'est-ce qu'on vous apprend ?
À l'IRCEP, on a plusieurs ateliers. Donc on a atelier de photos, de peinture, de dessin, céramique, sérigraphie, etc. Donc on a libre de choix pour choisir le support qui nous convient pour notre propre projet personnel.
Là, je vois que vous avez réalisé des photos, des tableaux de peinture et aussi des performances.
Oui, exactement.
Donc, vous avez voulu essayer un petit peu tous les champs possibles.
À la base, c'est en fait tous les photos, la vidéo, les créations des objets, tout ça, c'est pour réaliser ma performance. Tout ça, c'est le service de ma performance, en fait.
D'accord. Donc, cette performance, elle a déjà été présentée à Tourcoing ?
Oui, en fait, j'ai fait plusieurs expositions. C'était à Tourcoing, il y en a, c'est à Lampersart. À Lille.
Donc cette performance, elle a rapport à OT, non? Un peu?
Oui, en fait, C'est une performance intitulée Maîtresse du thé. Au fait, j'ai fait une robe en sachet de thé. C'était pendant une cérémonie. J'avais invité 24 personnes. Donc, ils sont venus pour assister à cette cérémonie du thé. Donc, j'avais renversé de l'eau sur ma robe. Et puis, sous mes pieds, il y a 24 petites tasses. Donc, le thé a coulé dans les tasses. Et les gens sont venus chercher leur thé à l'ordre, dans l'horloge.
Donc, effectivement, c'est difficile d'expliquer exactement en quoi consiste la performance, mais on voit bien que dedans, il y a quelque chose de conceptuel.
Oui.
Il y a peut-être quelque chose aussi de rituel.
Oui, c'est une performance rituelle. En fait, ce que je cherche, c'est les rencontres, les relations entre les femmes et les hommes. Donc, le titre de performance, c'est Maîtresse du thé. Justement, je voulais jouer le mot maîtresse dans ces trois sens du terme. Donc, d'abord, il y a maîtresse du thé. C'est-à-dire comme maître du thé, celle qui sert le thé, qui invite. Donc maîtresse de la maison, celle qui sert ses invités. Voilà. Deuxième sens, c'est le maîtresse de l'école, parce que les invités, ils se plaçaient dans un cercle rond autour de moi. Donc c'est moi qui dirige quel ordre il doit passer. Donc ça fait penser les écoles avec le maîtresse avec les enfants. C'est un règle de jeu en fait. Le troisième sens, donc il y a maîtresse amoureuse. Donc justement il y a cette infusion du thé et effusion amoureuse qui crée entre le thé et tout ce qui se passe autour.
Alors là, on ressent bien, quand on voit les photos de cette performance, il y en a certaines qu'on peut voir sur MySpace ou d'autres, on ressent bien que votre culture est très importante dans cette conception d'œuvre, que vos racines, votre culture chinoise, elles servent un propos.
Oui, justement. En fait, je pense que le thé, c'est une façon d'accueillir les gens en Chine. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le thé comme une matière très importante. Donc, entre le végétal, les habits et le corps. Donc, au début de la performance, c'est que d'abord, les gens que j'ai invités, je ne les connaissais pas. Donc je l'ai croisé jour à jour dans la vie quotidienne. Des fois c'est dans la rue, des fois dans des cafés, dans des fêtes. Pour moi c'est important de les faire connaissance et de les inviter chez moi. Je les offre un café. Après leur départ, j'ai laissé sécher les filtres à café et j'ai écrit leur adresse. J'ai inséré un petit mot en leur demandant s'ils voulaient bien participer à ma cérémonie du thé. Donc du thé au café, je trouve cet passage c'est assez important. Pour moi ça signifie de l'Europe à Chine.
Alors c'est vrai que cette façon de travailler est très conceptuelle, on va dire. Ça s'apprend où? À l'ERCEP? Ça s'apprend en France? Pas forcément en Chine?
Je pense apprendre dans la vie, ça prend depuis notre naissance. Depuis, je pense que c'est la vie qui m'apprend. L'ERCEP, bien sûr, les profs.
Donc, par rapport à des artistes qui peignent l'instant, l'émotion, vous travaillez le concept?
Oui.
Et beaucoup de symbolique aussi?
Oui, très symbolique aussi.
Quelle est l'importance pour vous du symbolique dans l'œuvre? Comment vous ressentez cette nécessité de représenter des choses au travers de symboles et de mettre ça en perspective par rapport à un concept et pas forcément par rapport à une première émotion qu'on jette sur une toile?
Je pense que les symboles, c'est universel, mais les émotions, c'est personnel. Je trouve que l'art, il faut dépasser notre personne, notre propre être, et il faut parler de quelque chose universel.
Dans ce concept infusion-effusion, il y a beaucoup d'humain dedans, de personnel, voire d'intime.
Oui.
C'est quelque chose de très différent par rapport à l'art chinois, l'intime, en France, dans la culture française.
Je pense que ça dépend de l'œuvre, ça dépend de l'artiste.
Est-ce que vous connaissez des artistes chinois qui, selon vous, sont intéressants aussi dans le sens qu'ils font bouger les choses? Par exemple, il y a des artistes chinois qui sont présentés régulièrement à Lille. Est-ce que vous allez les voir, les œuvres qu'on présente au Tripostal ou...
Oui, j'ai vu à la Malterie, j'avais vu une exposition, il y avait deux artistes chinois, donc je me rappelle plus trop leur nom, donc il avait fait des machines robots, assez rigolo d'ailleurs. J'ai pas eu d'occasion de discuter avec lui, j'aurais bien aimé en fait, je sais pas trop qu'est-ce qu'il voulait dire.
Là, on ressent, d'une manière générale, sur le marché de l'art, une forte place laissée maintenant aux artistes chinois. Ils ont, on peut dire, le vent en poupe. Il y a de grands lieux de création à Pékin, bien sûr, et à Shanghai aussi. On trouve
j'avais visité cet été aussi.
Qu'est-ce que vous en pensez de ces artistes qui sont dans le marché de l'art?
Je suis contente de voir, il y a de plus en plus de l'art contemporain en Chine. Donc j'avais l'occasion de voir, c'était Biennale de Pékin, Biennale de l'art contemporain à Pékin. Il y a beaucoup de l'œuvre, ça a beaucoup amélioré par rapport il y a quelques années. Je me rappelle quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts en Chine, comme j'étais dans un département de peinture chinoise, donc c'est... les profs, certains profs, ils sont assez conservateurs parce que ils voulaient qu'on peint comme les anciens, donc il faut faire des copies, des copies, des copies. Je sais qu'il y a beaucoup de richesses dans la peinture traditionnelle chinoise, mais je pense qu'il faut quand même laisser la liberté que les jeunes fassent leur propre art, mais pas forcément de son maître. C'est pour ça, l'année dernière, quand j'étais à Biennale de Pékin, je trouvais qu'il y a beaucoup de l'œuvre intéressante et c'est beaucoup de concepts dedans, assez, des fois assez chinois, des fois on ne voit pas du tout, c'est un artiste chinois, donc c'est ça qui vient.
Alors, ces artistes chinois, si on prend à Pékin par exemple, ça devient un vrai business aussi, non?
Oui, je pense que je sais qu'il y a mes anciens collègues. Au début, ils ont créé une forme de peinture, un style de peinture au début. Et dès que tu vois que ça marche, donc après, ça va entrer dans un routine en fait. Donc il fait que ce genre de peinture parce qu'il y a que ce type de peinture qui marche. Donc les gens achètent pour parce qu'il fait ce genre de peinture. Je trouve ça c'est un petit peu dommage parce que les artistes ont envie de créer mais ils ne peuvent pas parce que sinon ils ne pourront plus vendre. Il y a ce problème là aussi.
J'ai vu aussi à Shanghai des ateliers où les artistes passaient vraiment des heures et des heures, toute la journée de 8h du matin à 10h du soir à travailler et produire des séries, des séries, des séries.
Oui, des séries.
Alors justement cette possibilité de travailler autrement en France, elle est due à quoi? Fait qu'il y ait des réseaux différents? Est-ce qu'il y a aussi peut-être économiquement des facilités pour les artistes? Comment vous ressentez les choses?
Je pense que d'abord, les collectionneurs de l'art contemporain, ils ont commencé à mettre leur attention en Chine. Donc ça permet des jeunes artistes pourraient très vite améliorer le prix de leur œuvre. Donc c'est un peu la mode aussi qui fait qu'ils ont des commandes.
Et en France, pour créer, est-ce que l'artiste a le temps, la possibilité de le faire dans de bonnes conditions? De créer, de prendre le temps de réaliser son œuvre, est-ce que c'est plus facile?
Je pense que depuis mon arrivée en France, je trouvais que la vie, en fait, c'est assez assez tranquille. On n'est pas obligé de se dépêcher de faire quoi que ce soit. Je pense que... Et puis, je vois beaucoup de gens qui font des choses juste pour le plaisir. Je trouve que c'est assez taoïsme, je trouve. Donc, ça me plaît bien, cette mentalité. Je connais des troupes, des comédiens. Donc, ils font ça, pas pour gagner de l'argent, c'est juste parce qu'ils ont envie et c'est leur passion.
On peut rappeler le concept taoïste? En gros, c'est de vivre sans forcément faire beaucoup de choses?
Non. C'est juste, on a le droit de ralentir, de profiter le temps et de... c'est-à-dire qu'on fait quelque chose, c'est pas pour le résultat, c'est pour le fait de, c'est de le tracer, en fait, le chemin qui est important.
Alors justement, ce tracer, ce chemin, quand vous créez une œuvre, quand vous travaillez, en fait, est-ce que pour vous, c'est aussi un chemin?
Oui, je trouve que c'est un chemin, justement. Parce que, par exemple, l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la cérémonie du thé, je pourrais très bien prendre les copains. C'est comme ça, je produis cette œuvre dans un mois ou dans une semaine. Mais justement, je trouve cette rencontre de jour à jour, de croiser les gens, de faire connaissance, de les inviter, de boire un café chez moi, ensuite de les demander s'ils voulaient bien participer à ma cérémonie du thé. Il y a des gens qui refusent. Je trouve ça aussi, ça fait partie de la vie. Donc c'est assez important, oui.
Vous pensez qu'une œuvre aboutie, elle doit être mûre, prête, elle doit passer par un temps nécessaire?
Oui, je trouve que c'est très important. C'est comme nous, on ne peut pas de naître et de vieillir dans un an, on ne pourra pas.
Quand est-ce que vous jugerez, ou peut-être que vous jugez qu'elle l'est déjà, votre œuvre mature? Est-ce qu'elle est prête déjà maintenant à être exposée, présentée, valorisée?
Quand on est adolescent, on dit jamais on est naïf. Je pense que sûrement mon œuvre, c'est comme l'âge, hein, donc on ne pourra pas être super mature. Je pense que c'est quelques années plus tard, hein, quand je revois mes œuvres, je dis « Ah, c'était un peu naïf quand même, je pense. »
Est-ce que dans votre parcours, vous rencontrez des gens qui vous marquent, hein, qui finalement peuvent faire dériver un peu le cours de votre style, ou est-ce que vous avez rencontré des artistes ou des personnalités marquantes qui sont déterminantes pour votre œuvre? Des gens qui vous ont impressionné, qui vous ont peut-être conseillé ou inspiré d'autres façons de faire?
Sûrement. J'ai croisé beaucoup d'artistes à Lille, à Tourcoing. Avec les échanges avec ces artistes, sûrement, j'ai influencé. Des fois aussi, je participe un petit peu les projets d'autres artistes. Ça m'apprend aussi beaucoup de choses.
Et si on voit dans l'autre sens, qu'est-ce que vous apportez à ces artistes qui ne connaissent pas forcément votre culture? Est-ce que vous amenez des éléments, des réflexions, un recul peut-être sur ce qu'ils font?
Sûrement, il y a de tout. Des fois, de leur pensée, leur vécu... Et de leur projet au futur. Hein. Tout ça, ça m'influence, tout ça, ça me fait réfléchir.
Donc là, on est au mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe pour à la fois vos travaux, vos œuvres? Est-ce qu'on peut les voir, les rencontrer? Où? Et aussi pour vous, Christiane, qu'est-ce que vous allez devenir?
En ce moment, donc, il y a l'exposition à l'Hospice Tavray de Tourcoing, mais malheureusement, ça termine demain, dimanche. Donc, il y a une autre exposition prévue, c'est le 16 janvier au Centre d'art à Vosham. J'ai d'autres projets de performance concernant parler de ma situation, question de titre de séjour, ces genres de questionnements. J'espère que mon projet va être réalisé assez bientôt.
On se retrouve après une petite page musicale pour justement aborder ces questions, j'allais dire basiques, malheureusement trop courantes. C'est que les artistes n'ont pas non plus le droit de circulation dans le monde d'une manière facile. On va essayer de voir comment on peut faciliter leur déplacement et leur vie dans le pays qu'ils ont choisi. Vous êtes sur Campus 106.6 FM. Voilà, Olivier Descamps, donc vous avez décidé d'agir pas tout seul, hein, dans le cadre d'un collectif pour justement soutenir la résidence, j'allais dire définitive si elle le souhaite, de Keisuan en France.
Alors, en fait, j'ai pas vraiment décidé, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. C'était le 16 octobre, hein. J'étais à l'inauguration des 7e rencontres de la photographie et du livre à la Maison Folie, Hospice d'Avray, et Keshwan nous apprend très officiellement pendant cette inauguration que son titre de séjour s'arrête dans 10 jours plus tard, le 26 octobre. Mm-hmm. En responsabilité à la municipalité de Tourcoing, je peux pas... c'est une situation... voilà, qui m'a retourné le ventre et j'ai même pas décidé, j'ai tout de suite agi contre cette injustice, parce que c'est vrai que j'ai eu l'habitude de côtoyer Keshwan dans toutes ses performances qu'elle a fait, que ce soit à l'ERCEP, que ce soit sur la zone de l'Union, que ce soit à la Maison Folie Hospice d'Avray. C'est vraiment quelqu'un qui est attachant, lucide, conscient de la validité de son art, et nous à Tourcoing on est d'accord pour la suivre. Donc voilà, donc ça s'est imposé à moi. J'ai réuni mon modeste agenda et mes contacts, et donc ça s'est fait comme ça. On a créé un comité de soutien autour de personnes à qui j'ai exposé la situation de Keshwan et qui ont décidé que ça pouvait pas se passer comme ça et qu'il fallait interpeller le préfet. Voilà, donc.
Marius Ducatès, donc à la CIMADE, comment on peut traiter ce genre de problème?
Quand elle est venue avec son... D'abord, je voudrais dire un peu comment j'ai appris la situation. C'est pas elle qui est venue me le dire. C'est quelqu'un de très réservé. J'ai appris la situation par l'intermédiaire d'un collègue qui, en gros, lui a tiré les vers du nez. Elle n'est pas bien. Donc, je lui ai proposé de venir à la CIMADE, ce qu'elle a fait, et on a étudié le dossier. Et pour nous, c'était un dossier en béton. Mm-hmm. On a absolument pas compris pourquoi elle n'était pas régularisée. On a vu son CV, la quantité d'activités artistiques qu'elle a pu avoir, le rayonnement au niveau de la région, c'est qu'elle a apporté à notre région Nord-Pas-de-Calais. Mm-hmm. Et on n'a absolument pas compris. Et là, elle nous a, on a compris qu'elle avait fait une demande de titre de séjour. L'exigence qui lui a été donnée, c'est de fournir un CDI. Or, pour un étranger non communautaire, le CDI est parfaitement impossible, surtout dans l'éducation nationale. Et par la suite, les seules solutions, on s'est retrouvés, nous, CIMADE, devant un mur, et on a décidé d'essayer de faire agir des politiques. C'est ce que j'ai fait.
Oui. Vous parlez d'éducation nationale parce qu'en plus, Keisuan enseigne le chinois au lycée Montebello.
Elle est vacataire en chinois au lycée Montebello, où elle fait un boulot fantastique. Il suffit de demander aux élèves. Si elle voulait, elle pourrait doubler son nombre d'élèves. Donc c'est quelqu'un qui est quand même apprécié. On lui demande au niveau de la préfecture un certain nombre de... un CDI, qui n'est pas possible à l'éducation nationale. Bon, après intervention de politiques, de députés ou autres, là on apprend que par la même... je dirais pas que c'est la même personne. Espérons que ça n'est pas lui, par le chef de service, qui suffisait de venir dans son bureau. Que le CDI n'était absolument pas nécessaire, qu'il suffisait d'avoir une promesse d'embauche. Donc la situation commence à se débloquer.
Mais bon, l'éducation nationale, une promesse d'embauche, ça existe?
Non.
Non. Non. Alors sinon...
Elle avait un CDD, donc elle avait plus que ce que la loi demandait. D'accord. Et on a en face de nous une préfecture, ou des gens à la préfecture qui ont une conception de la loi... qui me dépasse étrangement.
Ça dépend d'une personne au guichet ou ça dépend d'une politique générale?
Si j'étais réaliste, je dirais que ça dépend d'une politique générale, mais comme je ne suis pas réaliste et je suis naïf, je pense qu'il y a eu un quiproquo.
Voilà. Donc l'idée maintenant, c'est que ça s'arrange.
On espère que ça va s'arranger.
Est-ce que d'une manière générale, on pourrait considérer que l'artiste mériterait d'être reconnu pas seulement en France, hein, mais dans tous les pays, au moins européens.
Tout à fait. L'art, c'est quelque chose de fondamental. C'est la liberté. Ça nous donne notre... Nous sommes des humains. Une reconnaissance de notre état d'humain. Humain, non pas violent, mais humain dans l'état pur, humaniste, dans le siècle des Lumières, si on peut reprendre cette vision-là. L'artiste nous apporte une liberté.
Alors c'est vrai que mettre l'artiste dans le cadre d'un CDI, ça n'a pas trop de sens non plus. Il n'y a pas que des artistes qui travaillent 35 heures ou autre. C'est un peu antinomique, on va dire.
C'est un mépris pour le travail. Pour moi, c'est un mépris pour ce qu'est un artiste.
Est-ce qu'il y a une réglementation dans le domaine européen où il y a peut-être une prise en compte de ce type?
Il n'y a même pas de réglementation fondamentale. Il y a des textes en France... Mais c'est au libre arbitre des administrations locales. Des artistes sont mieux traités dans telle préfecture que dans telle autre.
Et d'un pays à l'autre,
d'un pays à l'autre, c'est un peu la même chose.
Est-ce qu'à l'étranger, il y a aussi les mêmes problèmes, par
exemple? Oui, il y a aussi des problèmes par rapport à Dublin, ces textes de Dublin. Il y a des artistes qui sont arrivés. J'ai l'exemple là d'un artiste, c'est un peintre iranien qui est arrivé en Italie. Il a été déposé en Italie par son passeur. Il venait en France parce que il voulait se perfectionner en France. Faut voir un peu le summum administratif qui lui est retombé dessus. Il fallait qu'il retourne en Italie. L'Italie l'a renvoyé en France parce que sur le passeport il était marqué France. On cherche à. Et d'un autre côté. En étant un peu méchant, moi, je viens d'apprendre dans la Voix du Nord qu'il y avait un médecin à Béthune, rwandais, qu'il n'y a aucune difficulté pour avoir un titre de séjour. Et puis là, on apprend, j'espère que c'est une rumeur, que ça n'est pas la vérité, qu'il aurait énormément participé au génocide. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu moins regardant en fonction des appuis politiques ou des besoins politiques de nos États européens.
Politique et économique?
C'est la même chose actuellement. Personnellement, je vois guère de différence entre acheter des Rafales au Brésil, ne pas obtenir l'achat de ces Rafales et de s'en vanter. Politique, c'est pas économique.
Donc là, la situation est peut-être en voie de solution?
On espère, parce que tant qu'il n'y a pas de papier, et nous, ce qu'on espérait, c'est quel est le titre de séjour correspondant à ses activités culturelles, c'est-à-dire compétences et talents. On nous dit que c'est réservé aux sportifs.
C'est vraiment défini comme ça dans le texte?
Non. Elle peut l'avoir en tant qu'artiste. C'est un titre de séjour de 3 ans pour lequel il y a moins de contraintes. Un artiste, on sait très bien qu'il ne va pas produire immédiatement, qu'il ne va pas avoir un gain immédiat. Et le risque avec d'autres types de séjour, c'est qu'on puisse lui exiger d'avoir un revenu minimum relativement important et qu'elle ne puisse pas l'avoir et en profiter pour recommencer la même comédie l'année prochaine. Mais vu ce qu'elle a apporté à la région... Il serait normal qu'on lui attribue ce titre de séjour. Elle a du talent, elle a de la compétence, et elle nous apporte, à nous, au Nord-Pas-de-Calais, on n'arrête pas de dire qu'il faut développer nos régions. Elle nous apporte quelque chose.
Compétence et talent, Olivier Descamps, finalement, dans le comité de personnes qui ont signé le fait qu'elle puisse rester en France, il y a des gens qui l'ont distingué, remarqué, apprécié.
Oui, il y a des gens, il y a surtout une volonté d'agir pour obtenir ce titre de séjour. Il y a des gens qui ont la compétence et le talent pour pouvoir le demander dans les plus hautes sphères de l'État. Hein. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a des parlementaires. Donc je pense que c'est un travail politique qu'on va devoir mener sur l'accueil des artistes en France, sur l'accueil des artistes étrangers en France, et sur l'accueil plus général des étrangers en France. Quoi.
Les artistes étrangers va finir par se passer par les artistes en France.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement, enfin aujourd'hui par exemple?
Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est rejoindre le comité de soutien. Donc là, on arrive au bout d'une dizaine de jours à près de 200 personnes qui ont rejoint ce comité de soutien. Alors forcément, ce sont des gens qu'on connaît, quoi. C'est pas un buzz médiatique sur Internet. C'est pas 5000 signatures en une seule journée des gens qu'on connaît pas. Là, c'est des gens qu'on connaît vraiment. Rejoindre le comité de soutien, faire pression sur la préfecture pour revendiquer encore et encore ce titre de séjour compétences et talents, et ce que disait Keshwan, hein, que la vie c'est des rencontres, et l'importance des rencontres ça se montre là dans ce comité de soutien. Voilà, c'est utiliser les compétences et le talent de chacun pour que le titre de séjour compétences et talents soit accordé à Keshwan. Alors on a l'impression que là, pour l'instant, ça se débloque un peu du côté de la préfecture. Rien n'est gagné. Et le comité de soutien à Keshwan Feng revendique toujours ce titre, compétences et talents.
Keshwan Feng, vous vous sentez bien soutenu, là, finalement?
Oui.
C'est quelque chose d'important pour vous?
Oui, c'est très important, ça me donne de la force.
Bon, ben, on vous souhaite bonne chance, bon courage.
Merci.
Et puis à très bientôt partout dans la région et en France pour présenter vos œuvres.
Merci, j'espère aussi.
Très bonne journée.
Merci.
Au revoir à tous.
Aussi.
Vous écoutez Radio Campus, la radio de l'Université de Lille, dans le nord de la France. 您在收听的是 Radio Campus, 法国北部最受欢迎的校园电台。Retrouvez nos émissions sur la Chine sur www.ondeschine.fr.您可以登录www.ondesdechine.fr 收听我们有关中国的节目。
你是那雨后最初的丁香，在他不经意时开放，守候着每个黎明和夜晚，经过瞬间，你远远地为它开放，在每个夜里，在梦里它可曾感到你的忧伤？你远远地为它开放，在每个夜里， 先开放。